Merci. Donc, il m'appartient ce soir d'établir, sinon des conclusions, au moins une synthèse des communications proposées durant cette journée. En note séminale et à la manière d'un paravent également, sans doute, je pointe en une seconde les difficultés de l'exercice, intrinsèques, conjoncturelles aussi, et j'en retiens trois sur des registres différenciés. Premièrement, n'est pas synthétiste qui veut, donc je ne sais pas si l'ouvrage en conscience est à portée de moi. On attend de celui qui synthétise qu'il surplombe par l'épaisseur de ses recherches le travail conduit par les autres. Il n'est de ce fait ici aucunement question de synthèse au sens plein. Aussi bien m'engagerai-je sur un chemin plus balisé, moins escarpé, en un mot davantage à mon échelle, qui est celui du bilan. Deuxièmement, n'ayant pas le don d'ubiquité, je n'ai pas pu assister ce matin, me trouvant ici même, dans l'amphithéâtre Montesquieu, aux réflexions engagées dans l'amphithéâtre Siegfried, portant sur les réseaux et les médiations culturelles. En conséquence, mon propos sur ce point précis prendra donc le seul appui, par définition simplifiée, des résumés fournis par les intervenants. Troisièmement, cette synthèse s'installe sur un segment de connaissances, à ma hauteur, difficilement contextualisable, car d'une part, hier absente, je n'ai pas pu prendre la mesure de l'introduction générique et projective établie par François Staliano-Dégaret, grand ordonnateur de ce colloque, suivi d'une première batterie de questions, et d'autre part, absente demain, je réfléchis donc sur des processus inachevés, puisque j'ignore les conclusions partielles puis globales qui, proposées par Henri Rousseau et à la manière d'une boucle par François Staliano-Dégaret à nouveau, figureront en clôture, provisoire certes, mais en clausule tout de même de ces journées demain midi. Donc un exercice ardu, car déconnecté d'hier et coupé de demain. Un exercice amputé d'une matinée médiatique et peut-être sans doute, évidemment, un exercice manquant de la profondeur que seule une vie d'expérience passée devant la table de travail peut intelligemment fournir. Je m'y attelle cependant et me lance rapidement, décidée à soulever, au format d'une rythmique ternaire, trois points, les deux premiers ultra rapides à la manière de balises, le troisième enraciné sur une réflexion ouverte. Premièrement, la désignation stricto sensu de cette journée. Deuxièmement, en une seconde, les conditions de production conduisant, de production du travail conduisant à une brève présentation du profil disciplinaire des intervenants. Et troisièmement, enfin, plus long donc évidemment, car en cœur de cible, un essai de qualification des objets historiques aujourd'hui mis en circulation. D'abord, très rapidement, une identification quantifiée de cette journée. 18 communications réparties en deux mouvements successifs. D'abord, les suites de réflexions proposées sur la vie culturelle urbaine en temps de guerre. Ensuite, les politiques et les cultures urbaines sous l'occupation. À l'intérieur de ce mouvement duel, deux stances à chaque fois. Relatives au premier, se succèdent des interventions portant prioritairement sur la musique, un peu sur les spectacles, et une autre engagée autour des réseaux et des médiations culturelles. À l'intérieur du second, répétition du tempo avec deux axes encore, l'un fléchant sur les institutions culturelles, le second tentant la mesure des stratégies déployées par l'occupant. Ensuite, je viens de le dire, une seconde, une réflexion sur les producteurs de ces débats. Il est intéressant de noter l'esprit d'ouverture, très certainement souligné dès hier, qui caractérise cette journée dont l'atelier de travail est très franchement pluridisciplinaire. Ici s'expriment tant concurrence-convergence des historiens, mais aussi des historiens d'art, des économistes, des sociologues ou des musicologues. Donc, aujourd'hui, convocation de disciplines œuvrant en frontière l'une de l'autre, en faveur, souvent, de l'anthropologie historique. Donc, acceptation dans le même mouvement de pratiques de travail et de grilles d'interprétation aux racines différenciées. Esprit d'ouverture encore, puisque le comparatisme, installé comme le point cardinal des trois journées d'études, se trouve incarné par des chercheurs dont les intérêts, cerclant les transferts hexagonaux, s'amorcent à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie, à Prague, à l'ombre du Reich et de l'Italie fasciste. Enfin, bien sûr, les objets historiques qui nous retiennent et qui, aujourd'hui, ont emprunté trois formes d'études. L'histoire des institutions, l'histoire de groupes sociaux, l'histoire de pratiques sociales. Ces trois formes disciplinaires, qu'elles émanent de chercheurs français ou étrangers, ou bien que les visual studies semblent parfois l'emporter dans l'analyse, trouvent cependant un noyau dur, un socle commun, autour d'une histoire culturelle comprise comme une histoire sociale des représentations. C'est-à-dire ici et aujourd'hui, l'histoire culturelle qui s'interroge sur l'impact sociologique des événements, l'histoire culturelle qui se polarise sur l'étude des organisations, qui scrute les rapports entre culture et appareil avec un S d'État à travers les choix gouvernant les mutations institutionnelles. Une histoire culturelle qui questionne les populations, en masse et au singulier. Une histoire culturelle qui braque l'objectif historique sur les facteurs politiques et sociaux influents sur les modèles d'habitus. Une histoire culturelle qui hume sur la base d'un examen des pratiques, les strates comportementales plaçant les conditions de production, de médiation ou de réception. Une histoire culturelle, enfin, qui privilégie l'approche par les formes, lui faisant saisir les imaginaires collectifs, les idéologies esthétiques ou les phénomènes d'acculturation, de circulation et de transfert d'idées. Donc ici et aujourd'hui, une plateforme commune, l'histoire culturelle, avec cependant trois angles différenciés. En tête, l'entrée monographique. La terminologie ne se voulant jamais old school, puisqu'elle s'assume, bien au contraire, ouverte et englobante. Et par ce biais, à la manière d'une cartographie qui souligne flux convergents et flux divergents, autant que l'émergence de pôles, stables ou non stables, un tour de France, zone occupée, zone non occupée, toujours ouvert, c'est sa signature sur l'international, sinon complet, au moins représentatif, se déroule sous nos yeux. Dans le sens des aiguilles d'une montre, nous tournons de Rouen ou Le Havre vers Troyes, Strasbourg, Dijon, Lyon, Menton, Nice, Toulouse, en remontant vers le Loiret et Fontainebleau. Là, souvent, l'histoire des organisations, leur sociologie aussi, et j'y insiste, est sollicitée. Le trinôme fondateur déjà évoqué, c'est-à-dire, dans le contexte ultra-spécifique de l'occupation, les conditions de production, c'est-à-dire les structures et le personnel, les espaces de médiation, ici, le cinéma, le théâtre, le musée ou la bibliothèque avec leur offre culturelle, œuvres, répertoires, programmation, les conditions de la réception, les publics français et allemands avec leur taux de fréquentation, est évalué afin de comprendre des blocs organisationnels. Ceux-là, dirigés, animés, déchirés parfois par des hommes, seuls ou en réseau, réseau durable ou non, sont alors interprétés en intégrant on centre et non de façon marginale le facteur économique et les données chiffrées extraites des comptes de toutes ces entreprises culturelles dont nous avons aujourd'hui parlé. Ils sont interprétés, ces blocs organisationnels, sur deux flancs. D'une part, leur intracomportement, c'est-à-dire leur fonctionnalité interne, celle du dedans. D'autre part, leur extracomportement, soit leur ductibilité aux plurisecousses externes, autant que leur insertion dans une géographie des villes, on l'a vu, dès lors souvent totalement reconfigurée. Ensuite, une histoire sociale. Une histoire sociale qui appréhende des populations et des groupes agissant au titre de l'individu ou selon une logique collective, selon parfois même une logique dite corporate, lorsque le ciment social fait son œuvre. Là sont évoqués sous nos yeux la trajectoire et les itinéraires heurtés de cohortes d'artistes plasticiens, de journalistes, de tourneurs, de chanteurs, de conservateurs, de jazzmen, d'historiens, d'architectes, d'urbanistes, ballottés par les événements, cherchant à survivre, en exil, déportés, visant parfois le plus utile et ou le plus rentable, attirés encore comme des lucioles par les lumières de la ville en véritable cinglé du music hall. Enfin, une histoire des pratiques, enroulée autour de l'analyse rectrice posée en fondement par Henri Rousseau quand il évoque une France de Vichy et des Français sous Vichy. D'un côté, l'historiographie est très balisée. des autorités allemandes, animées par le système idéologique du Reich, qui développe en stratégie des dispositifs de contrôle propres au schéma de l'occupant. Des autorités françaises qui imaginent, on le sait, un projet culturel sikh conduit à l'échelle de l'État français avec un écho souvent propre à chaque ville, et c'est ce qui nous saisit aujourd'hui, où la prise de position de chaque décideur, de chaque acteur, de chaque médiateur culturel, installé en porosité souvent entre résistance, collaboration et le plus souvent dans l'accommodation et ou l'adaptation, est susceptible de réorienter ou de faire vaciller le curseur. Et puis en face, avec ou contre, des Français qui créent, des Français qui inventent, des Français qui se distraient. Ils chantent, ils lisent, des ouvrages, la presse, des revues. Notons l'intelligente et singulière figure de Jean Ballard au Cahier du Sud, ou celle encore de René Tavernier incarnant Confluence. Ils écoutent de la musique, la radio aussi. Ils construisent, ils vont au concert, ils dansent, ils swingent, ils jouent des pièces. Ils se battent encore pour la sauvegarde de leur capital symbolique, le patrimoine matériel, immatériel sans aucun doute également, dans les niches de liberté accessibles dans les failles de toute construction systémique, autant que parfois favorisées en vue d'un contrôle plus pernicieux encore. Alors aujourd'hui, grâce au bel échafaudage intellectuel construit par François Staliano Desgarais et grâce à une sollicitation pointue d'archives de tutelle comme d'archives fonctionnelles, françaises comme allemandes, tchèques parfois, écrites, imprimées, médiatiques, iconiques, sonores, cinématographiques aussi, chacune de ces analyses, côte à côte, mais surtout mise en synergie dans la puissance d'un corpus dès lors reconstitué, gagnent en épaisseur parce qu'elles s'inscrivent sur une périodisation déclivée, je l'ai rappelé ce matin et nous y avons beaucoup insisté, Patrick Evenot et moi-même en 2008, lors du colloque tenu à l'IMEC sur la culture et les médias sous l'occupation des entreprises dans la France de Vichy. Périodisation effectivement marquée par l'occupation pour le destin des hommes, singulièrement tragique lorsqu'ils sont juifs. Périodisation ouverte sur la longue durée, sur le continuum, avec un point de départ aux entours de 36, avant même parfois, et une ligne d'arrivée post-épuration, au tournant des années 50 et de ses quintesses, lorsqu'il s'agit de la circulation, autorisée ou non, des objets culturels dans un espace français caractérisé par l'exception culturelle française, par une germanisation sectorisée du côté de la musique classique, du cinéma aussi parfois, par les signes enfin d'une américanisation, un instant ralenti mais vite remise en marche en vue de l'hypermodélisation que l'on sait. Je vous remercie.